Balzac. Le médecin de campagne. Chapitre 3. Le Napoléon du peuple.
Arrivez donc, monsieur, dit Jacotte. Il y a joliment longtemps que ces messieurs vous attendent. C'est toujours comme ça. Vous me faites manquer mon dîner quand il faut qu'il soit bon. Maintenant, tout est pourri de cuir. Eh bien, nous voilà, répondit Benassi en souriant. Les deux cavaliers descendirent de cheval, se dirigèrent vers le salon où se trouvaient les personnes invitées par le médecin. Messieurs, dit-il en prenant Genesta par la main, j'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Bluteau, capitaine au régiment de cavalerie en garnison à Grenoble, un vieux soldat qui m'a promis de rester quelque temps parmi nous. Puis, s'adressant à Genesta, il lui montra un grand homme sec, à cheveux gris et vêtu de noir. Monsieur, lui dit-il, est Monsieur Dufaux, le juge de paix, de qui je vous ai déjà parlé, et qui a si fortement contribué à la prospérité de la commune. Monsieur, reprit-il en le mettant en présence d'un jeune homme maigre, pâle, de moyenne taille, également vêtu de noir, et qui portait des lunettes, monsieur est Monsieur Tonnelet, le gendre de Monsieur Gravier, et le premier notaire établi dans le bourg. Puis, se tournant vers un gros homme, demi-paysan, demi-bourgeois, à figure grossière, bourgeonnée, mais pleine de bonhomie, Monsieur, dit-il en continuant, est mon digne adjoint, Monsieur Cambon, le marchand de bois à qui je dois la bienveillante confiance que m'accordent les habitants. Il est un des créateurs du chemin que vous avez admiré. Je n'ai pas besoin, ajouta Benassi en montrant le curé, de vous dire quelle est la profession de monsieur. Vous voyez un homme que personne ne peut se défendre d'aimer. La figure du prêtre absorba l'attention du militaire par l'expression d'une beauté morale dont les séductions étaient irrésistibles. Au premier aspect, le visage de M. Janvier pouvait paraître disgracieux, tant les lignes en étaient sévères et heurtées. Sa petite taille, sa maigreur, son attitude annonçaient une grande faiblesse physique, mais sa physionomie, toujours placide, attestait la profonde paix intérieure du chrétien et la force qu'engendre la chasteté de l'âme. Ses yeux, où semblait se refléter le ciel, trahissaient l'inépuisable foyer de charité qui consumait son cœur. Ses gestes, rares et naturels, étaient ceux d'un homme modeste. Ses mouvements avaient la pudique simplicité de ceux des jeunes filles. Sa vue inspirait le respect et le désir vague d'entrer dans son intimité. « Ah, monsieur le maire, » dit-il en s'inclinant comme pour échapper à l'éloge que faisait de lui Benassi. Le son de sa voix remua les entrailles du commandant, qui fut jeté dans une rêverie presque religieuse par les deux mots insignifiants que prononça ce prêtre inconnu. « Messieurs, » dit Jacotte en entrant jusqu'au milieu du salon et y restant le poing sur la hanche, votre soupe est sur la table. » Sur l'invitation de Benassi, qui les interpella chacun à son tour pour éviter les politesses de préséance, les cinq convives du médecin passèrent dans la salle à manger et s'y attablèrent, après avoir entendu le bénédicité que le curé prononça sans emphase, à demi-voix. La table était couverte d'une nappe de cette toile damassée inventé sous Henri IV par les frères Grindorge, habiles manufacturiers qui ont donné leur nom à ces épais tissus si connus des ménagères. Ce linge étincelait de blancheur et sentait le thym mis par Jacotte dans ses lessives. La vaisselle était en faïence blanche bordée de bleu, parfaitement conservée. Les carafes avaient cette antique forme octogone que la province seule conserve de nos jours. les manches des couteaux, tous en cornes travaillées, représentaient des figures bizarres. En examinant ces objets d'un luxe ancien et néanmoins presque neuf, chacun les trouvait en harmonie avec la bonhomie et la franchise du maître de la maison. L'attention de Genesta s'arrêta pendant un moment sur le couvercle de la soupière que couronnaient des légumes en relief très bien coloriés, à la manière de Bernard de Palissy, célèbre artiste du XVIe siècle. Cette réunion ne manquait pas d'originalité. Les têtes vigoureuses de Benassi et de Genesta contrastaient admirablement avec la tête apostolique de M. Janvier. De même que les visages flétris du juge de paix et de l'adjoint faisaient ressortir la jeune figure du notaire. La société semblait être représentée par ces physionomies diverses sur lesquelles se peignait également le contentement de soi, du présent et la foi dans l'avenir. Seulement, M. Tonnelet et M. Janvier, peu avancés dans la vie, aimaient à scruter les événements futurs qu'ils sentaient leur appartenir, tandis que les autres convives devaient ramener de préférence la conversation sur le passé. Mais tous envisageaient gravement les choses humaines, et leurs opinions réfléchissaient une double teinte mélancolique. L'une avait la pâleur des crépuscules du soir, c'était le souvenir presque effacé des joies qui ne devaient plus renaître. L'autre, comme l'aurore, donnait l'espoir d'un beau jour. « Vous devez avoir eu beaucoup de fatigue aujourd'hui, monsieur le curé, » dit monsieur Cambon. « Oui, monsieur, » répondit monsieur Janvier. « L'enterrement du pauvre crétin et celui du père Pelletier se sont faits à des heures différentes. « Nous allons maintenant pouvoir démolir les masures du vieux village, » dit Benassi à son adjoint. Ce défrichi de maison nous vaudra bien au moins un arpent de prairie. Et la commune gagnera de plus les 100 francs que nous coûtait l'entretien de Chotard le crétin. Nous devrions allouer pendant 3 ans ces 100 francs à la construction d'un ponceau sur le chemin d'en bas, à l'endroit du grand ruisseau, dit M. Cambon. Les gens du bourg et de la vallée ont pris l'habitude de traverser la pièce de Jean-François Pastoureau et finiront par la gâter de manière à nuire beaucoup à ce pauvre bonhomme. « Certes, dit le juge de paix, cet argent ne saurait avoir un meilleur emploi. À mon avis, l'abus des sentiers est une des grandes plaies de la campagne. Le 10e des procès portés devant les tribunaux de paix a pour cause d'injustes servitudes. L'on attend ainsi, presque impunément, au droit de propriété dans une foule de communes. Le respect des propriétés et le respect de la loi sont deux sentiments trop souvent méconnus en France et qu'il est bien nécessaire d'y propager. » Il semble déshonorant à beaucoup de gens de prêter assistance aux lois, et le « va te faire pendre ailleurs », phrase proverbiale qui semble dictée par un sentiment de générosité louable, n'est au fond qu'une formule hypocrite qui sert à gazer notre égoïsme. Avouons-le, nous manquons de patriotisme. Le véritable patriote est le citoyen assez pénétré de l'importance des lois pour les faire exécuter, même à ses risques et périls. Laisser aller en paix un malfaiteur, n'est-ce pas se rendre coupable de ses crimes futurs ? Tout se tient, dit Benassi. Si les maires entretenaient bien leur chemin, il n'y aurait pas de sentier. Puis, si les conseillers municipaux étaient plus instruits, ils soutiendraient le propriétaire et le maire quand ceux-ci s'opposent à l'établissement d'une injuste servitude. Tous feraient comprendre aux gens ignorants que le château, le champ, la chaumière, l'arbre sont également sacrés et que le droit ne s'augmente ni ne s'affaiblit par les différentes valeurs des propriétés. Mais de telles améliorations ne sauraient s'obtenir promptement. Elles tiennent principalement au moral des populations que nous ne pouvons complètement réformer sans l'efficace intervention des curés. Ceci ne s'adresse point à vous, monsieur Janvier. « Je ne le prends pas non plus pour moi, » répondit en riant le curé. « Ne m'attachais-je pas à faire coïncider les dogmes de la religion catholique avec vos vues administratives ? Ainsi, j'ai souvent tâché, dans mes instructions pastorales relatives au vol, d'inculquer aux habitants de la paroisse les mêmes idées que vous venez d'émettre sur le droit. En effet, Dieu ne pèse pas le vol d'après la valeur de l'objet volé, il juge le voleur. » Tel a été le sens des paraboles que j'ai tenté d'approprier à l'intelligence de mes paroissiens. Vous avez réussi, monsieur le curé, dit Cambon. Je puis juger des changements que vous avez produits dans les esprits en comparant l'état actuel de la commune à son état passé. Il est certes peu de cantons où les ouvriers soient aussi scrupuleux que le sont les nôtres sur le temps voulu du travail. Les bestiaux sont bien gardés et ne causent de dommages que par hasard. Les bois sont respectés. Enfin, vous avez très bien fait entendre à nos paysans que le loisir des riches est la récompense d'une vie économe et laborieuse. Alors, dit Genesta, vous devez être assez content de vos fantassins, monsieur le curé. Monsieur le capitaine, répondit le prêtre, il ne faut s'attendre à trouver des anges nulle part ici-bas. Partout où il y a misère, il y a souffrance. La souffrance, la misère, sont des forces vives, qui ont leurs abus, comme le pouvoir a les siens. Quand des paysans ont fait 2 lieues pour aller à leur ouvrage et reviennent bien fatigués le soir, s'ils voient des chasseurs passant à travers les champs et les prairies pour regagner plus tôt la table, croyez-vous qu'ils se feront un scrupule de les imiter ? Parmi ceux qui se frettent ainsi le sentier dont se plaignaient ces messieurs tout à l'heure, quel sera le délinquant ? Celui qui travaille ou celui qui s'amuse ? Aujourd'hui, les riches et les pauvres nous donnent autant de mal les uns que les autres. La foi, comme le pouvoir, doit toujours descendre des hauteurs, ou célestes ou sociales. Et certes, de nos jours, les classes élevées ont moins de foi que n'en a le peuple, auquel Dieu promet un jour le ciel en récompense de ses maux patiemment supportés. Tout en me soumettant à la discipline ecclésiastique et à la pensée de mes supérieurs, je crois que, pendant longtemps, nous devrions être moins exigeants sur les questions du culte, et tâcher de ranimer le sentiment religieux au cœur des régions moyennes, là où l'on discute le christianisme, au lieu d'en pratiquer les maximes. Le philosophisme du riche a été d'un bien fatal exemple pour le pauvre, et a causé de trop longs interrègnes dans le royaume de Dieu. Ce que nous gagnons aujourd'hui sur nos ouailles dépend entièrement de notre influence personnelle. N'est-ce pas un malheur que la foi d'une commune soit due à la considération qui obtient un homme? Lorsque le christianisme aura fécondé de nouveau l'ordre social en imprégnant toutes les classes de ses doctrines conservatrices, son culte ne sera plus alors mis en question. Le culte d'une religion est sa forme. Les sociétés ne subsistent que par la forme. À vous des drapeaux, à nous la croix. Monsieur le curé, je voudrais bien savoir, dit Genesta, en interrompant Monsieur Janvier, pourquoi vous empêchez ces pauvres gens de s'amuser à danser le dimanche ? Monsieur le capitaine, répondit le curé, nous ne haïssons pas la danse en elle-même. Nous la proscrivons comme une cause de l'immoralité qui trouble la paix et corrompt les mœurs de la campagne. Purifier l'esprit de la famille, maintenir la sainteté de ses liens, n'est-ce pas couper le mal dans sa racine ? Je sais, dit M. Tonnelet, que dans chaque canton, il se commet toujours quelques désordres, mais dans le nôtre, ils deviennent rares. Si plusieurs de nos paysans ne se font pas grand scrupule de prendre aux voisins un sillon de terre en labourant, ou d'aller couper des osiers chez autrui quand ils en ont besoin, c'est des peccadilles en les comparant aux péchés des gens de la ville. Aussi trouvais-je les paysans de cette vallée très religieux. Oh, religieux, dit en souriant le curé, le fanatisme n'est pas à craindre ici. Mais, monsieur le curé, reprit Cambon, si les gens du bourg allaient tous les matins à la messe, s'ils se confessaient à vous chaque semaine, il serait difficile que les champs fussent cultivés, et 3 prêtres ne pourraient suffire à la besogne. Monsieur, reprit le curé, travailler, c'est prier. La pratique emporte la connaissance des principes religieux qui font vivre les sociétés. Et que faites-vous donc du patriotisme ? Dit Genesta. Le patriotisme, répondit gravement le curé, n'inspire que des sentiments passagers. La religion les rend durables. Le patriotisme est un oubli momentané de l'intérêt personnel, tandis que le christianisme est un système complet d'opposition aux tendances dépravées de l'homme. Cependant, monsieur, pendant les guerres de la Révolution, le patriotisme... Oui, pendant la Révolution, nous avons fait des merveilles, dit Benassi en interrompant Genesta. Mais 20 ans après, en 1814, notre patriotisme était déjà mort, tandis que la France et l'Europe se sont jetées sur l'Asie 12 fois en 100 ans, poussées par une pensée religieuse. Peut-être, dit le juge de paix, est-il facile d'atermoyer les intérêts matériels qui engendrent les combats de peuple à peuple, tandis que les guerres, entreprises pour soutenir des dogmes, dont l'objet n'est jamais précis, sont nécessairement interminables. Eh bien, monsieur, vous ne servez pas le poisson ? Dit Jacotte, qui, aidé par Nicole, avait enlevé les assiettes. Fidèle à ses habitudes, la cuisinière apportait chaque plat l'un après l'autre, coutume qui a l'inconvénient d'obliger les gourmands à manger considérablement et de faire délaisser les meilleures choses par les gens sobres dont la faim s'est apaisée sur les premiers mets. Oh, messieurs, dit le prêtre au juge de paix, comment pouvez-vous avancer que les guerres de religion n'avaient pas de but précis? Autrefois, la religion était un lien si puissant dans les sociétés que les intérêts matériels ne pouvaient se séparer des questions religieuses. Aussi, chaque soldat savait-il très bien pourquoi il se battait. Si l'on s'est tant battu pour la religion, dit Genesta, il faut donc que Dieu en ait bien imparfaitement bâti l'édifice. Une institution divine ne doit-elle pas frapper les hommes par son caractère de vérité? Tous les convives regardèrent le curé. Messieurs, dit M. Janvier, la religion se sent et ne se définit pas. Nous ne sommes juges ni des moyens, ni de la fin du Tout-Puissant. Alors, selon vous, il faut croire à tous vos salamalek, dit Genesta avec la bonhomie d'un militaire qui n'avait jamais pensé à Dieu. Monsieur, répondit gravement le prêtre, la religion catholique finit mieux que tout autre les anxiétés humaines. Mais il n'en serait pas ainsi, je vous demanderai ce que vous risquez en croyant à ces vérités. Pas grand-chose, dit Genesta. Eh bien, que ne risquez-vous pas en n'y croyant point? Mais, monsieur, parlons des intérêts terrestres qui vous touchent le plus. Voyez combien le doigt de Dieu s'est imprimé fortement dans les choses humaines en y touchant par la main de son vicaire. Les hommes ont beaucoup perdu à sortir des voies tracées par le christianisme. L'Église, de laquelle peu de personnes s'avisent de lire l'histoire, et que l'on juge d'après certaines opinions erronées, répandues à dessein dans le peuple, a offert le modèle parfait du gouvernement que les hommes cherchent à établir aujourd'hui. Le principe de l'élection en a fait longtemps une grande puissance politique. Il n'y avait pas autrefois une seule institution religieuse qui ne fût basée sur la liberté, sur l'égalité. Toutes les voies coopéraient à l'œuvre. Le principal, l'abbé, l'évêque, le général d'ordre, le pape, étaient alors choisis consciencieusement d'après les besoins de l'Église. Ils en exprimaient la pensée. Aussi l'obéissance la plus aveugle leur était-elle due. Je tairai les bienfaits sociaux de cette pensée qui a fait les nations modernes, inspiré tant de poèmes, de cathédrales, de statues, de tableaux et d'œuvres musicales, pour vous faire seulement observer que vos élections plébéiennes, le jury et les deux chambres, ont pris racine dans les conciles provinciaux et œcuméniques, dans l'épiscopat et le collège des cardinaux, à cette différence près que les idées philosophiques actuelles sur la civilisation me semblent pâlir devant la sublime et divine idée de la communion catholique, image d'une communion sociale universelle, accomplie par le verbe et par le fait, réunie dans le dogme religieux. Il sera difficile au nouveau système politique, quelque parfait qu'on les suppose, de recommencer les merveilles dues aux âges où l'Église soutenait l'intelligence humaine. Pourquoi ? Dit Genesta. D'abord, parce que l'élection, pour être un principe, demandent chez les électeurs une égalité absolue. Ils doivent être des quantités égales, pour me servir d'une expression géométrique, ce que n'obtiendra jamais la politique moderne. Puis, les grandes choses sociales ne se font que par la puissance des sentiments qui seule peut réunir les hommes. Et le philosophisme moderne a basé les lois sur l'intérêt personnel, qui tend à les isoler. Autrefois plus qu'aujourd'hui, se rencontraient parmi les nations des hommes généreusement animés d'un esprit maternel pour les droits méconnus, pour les souffrances de la masse. Aussi, le prêtre, enfant de la classe moyenne, s'opposait-il à la force matérielle et défendait-il les peuples contre leurs ennemis? L'Église a eu des possessions territoriales et ses intérêts temporels, qui paraissaient devoir la consolider, ont fini par affaiblir son action. En effet, le prêtre a-t-il des propriétés privilégiées? Il semble oppresseur. L'État le paie-t-il? Il est un fonctionnaire. Il doit son temps, son cœur, sa vie. Les citoyens lui font un devoir de ses vertus, et sa bienfaisance, tarie dans le principe du libre arbitre, se dessèche dans son cœur. Mais que le prêtre soit pauvre, qu'il soit volontairement prêtre, sans autre appui que Dieu, sans autre fortune que le cœur des fidèles, il redevient le missionnaire de l'Amérique, il s'institue apôtre, il est le prince du bien, enfin, il ne règne que par le dénuement, et il succombe par l'opulence. Monsieur Janvier avait subjugué l'attention. Les convives se taisaient en méditant des paroles si nouvelles dans la bouche d'un simple curé. Monsieur Janvier, au milieu des vérités que vous avez exprimées, il se rencontre une grave erreur, dit Benassi. Je n'aime pas, vous le savez, à discuter les intérêts généraux mis en question par les écrivains et par le pouvoir moderne. À mon avis, un homme qui conçoit un système politique doit, s'il se sent la force de l'appliquer, se taire, s'emparer du pouvoir et agir. Mais s'il reste dans l'heureuse obscurité du simple citoyen, n'est-ce pas folie que de vouloir convertir les masses par des discussions individuelles? Néanmoins, je vais vous combattre, mon cher pasteur, parce qu'ici je m'adresse à des gens de bien, habitués à mettre leurs lumières en commun pour chercher en toute chose le vrai. Mes pensées pourront vous paraître étranges, mais elles sont le fruit des réflexions que m'ont inspiré les catastrophes de nos 40 dernières années. Le suffrage universel que réclament aujourd'hui les personnes appartenant à l'opposition dite constitutionnelle fut un principe excellent dans l'Église, parce que, comme vous venez de le faire observer, cher pasteur, les individus y étaient tous instruits, disciplinés par le sentiment religieux, imbus du même système, sachant bien ce qu'ils voulaient et où ils allaient. Mais le triomphe des idées, à l'aide desquelles le libéralisme moderne fait imprudemment la guerre au gouvernement prospère des Bourbons, serait la perte de la France et des libéraux eux-mêmes. Les chefs du côté gauche le savent bien. Pour eux, cette lutte est une simple question de pouvoir. Si, à Dieu ne plaise, la bourgeoisie abattait, sous la bannière de l'opposition, les supériorités sociales contre lesquelles sa vanité regimbe, ce triomphe serait immédiatement suivi d'un combat soutenu par la bourgeoisie contre le peuple, qui, plus tard, verrait en elle une sorte de noblesse, mesquine, il est vrai, mais dont les fortunes et les privilèges lui seraient d'autant plus odieux qu'il les sentirait de plus près. Dans ce combat, la société, je ne dis pas la nation, périrait de nouveau. Parce que le triomphe, toujours momentané, de la masse souffrante implique les plus grands désordres. Ce combat serait acharné, sans trêve, car il reposerait sur des dissidences nombreuses entre les électeurs, dont la portion la moins éclairée, mais la plus nombreuse, l'emporterait sur les sommités sociales, dans un système où les suffrages se comptent et ne se pèsent pas. Il suit de là qu'un gouvernement n'est jamais plus fortement organisé, conséquemment plus parfait, que lorsqu'il est établi pour la défense d'un privilège plus restreint. Ce que je nomme en ce moment le privilège n'est pas un de ces droits abusivement concédés jadis à certaines personnes au détriment de tous. Non, il exprime plus particulièrement le cercle social dans lequel se renferment les évolutions du pouvoir. Le pouvoir est en quelque sorte le cœur d'un État. Or, dans toutes ses créations, la nature a resserré le principe vital pour lui donner plus de ressorts, ainsi du corps politique. Je vais expliquer ma pensée par des exemples. Admettons en France 100 pairs. Ils ne causeront que 100 froissements. Abolissez la pairie. Tous les gens riches deviennent des privilégiés. Au lieu de 100, vous en aurez 10 000 et vous aurez élargi la plaie des inégalités sociales. En effet, pour le peuple, le droit de vivre sans travailler constitue seul un privilège. À ses yeux, qui consomme sans produire est un spoliateur. Il veut des travaux visibles et ne tient aucun compte des productions intellectuelles qui l'enrichissent le plus. Ainsi donc, en multipliant les froissements, vous étendez le combat sur tous les points du corps social au lieu de le contenir dans un cercle étroit. Quand l'attaque et la résistance sont générales, la ruine d'un pays est imminente. Il y aura toujours moins de riches que de pauvres. Donc, associe la victoire aussitôt que la lutte devient matérielle. L'histoire se charge d'appuyer mon principe. La République romaine a dû la conquête du monde à la constitution du privilège sénatorial. Le Sénat maintenait fixe la pensée du pouvoir. Mais lorsque les chevaliers et les hommes nouveaux eurent étendu l'action du gouvernement en élargissant le patriciat, la chose publique a été perdue. Malgré Sylla et après César, Tibère en a fait l'Empire romain, système où le pouvoir, s'étant concentré dans la main d'un seul homme, a donné quelques siècles de plus à cette grande domination. L'empereur n'était plus à Rome quand la ville éternelle tomba sous les barbares. Lorsque notre sol fut conquis, les Francs, qui se le partagèrent, inventèrent le privilège féodal pour se garantir leur possession particulière. Les 100 ou les 1000 chefs qui possédèrent le pays établirent leurs institutions dans le but de défendre les droits acquis par la conquête. Aussi la féodalité dura-t-elle tant que le privilège fut restreint. Mais quand les hommes de cette nation, véritable traduction du mot « gentilhomme », au lieu d'être 500, furent 50 000, il y eut révolution. Trop étendue, l'action de leur pouvoir était sans ressort et ni force, et se trouvait d'ailleurs sans défense contre les manumissions de l'argent et de la pensée qu'ils n'avaient pas prévues. Donc le triomphe de la bourgeoisie sur le système monarchique, ayant pour objet d'augmenter aux yeux du peuple le nombre des privilégiés, le triomphe du peuple sur la bourgeoisie serait l'effet inévitable de ce changement. Si cette perturbation arrive, elle aura pour moyen le droit de suffrage étendu sans mesure aux masses. Qui vote, discute. Les pouvoirs discutés n'existent pas. Imaginez-vous une société sans pouvoir? Non. Eh bien, qui dit pouvoir dit force. La force doit reposer sur des choses jugées. Telles sont les raisons qui m'ont conduite à penser que le principe de l'élection est un des plus funestes à l'existence des gouvernements modernes. Certes, je crois avoir assez prouvé mon attachement à la classe pauvre et souffrante. Je ne saurais être accusé de vouloir son malheur, mais tout en l'admirant dans la voie laborieuse où elle chemine, sublime de patience et de résignation, je la déclare incapable de participer au gouvernement. Les prolétaires me semblent les mineurs d'une nation et doivent toujours rester en tutelle. Ainsi, selon moi, messieurs, le mot « élection » est prêt de causer autant de dommages qu'en ont fait les mots « conscience » et « liberté », mal compris, mal définis, et jetés au peuple comme des symboles de révolte et des ordres de destruction. La tutelle des masses me paraît donc une chose juste et nécessaire au soutien des sociétés. Ce système rompt si bien en visière à toutes nos idées d'aujourd'hui que nous avons un peu le droit de vous demander vos raisons, dit Genesta en interrompant le médecin. Volontiers, capitaine.